José Boselli, Les Mystères de San Francisco, le quatrième larron. Il est certain que l'affaire de la San Francisco Life Company, qui rapporta à John Strobbins la confortable somme de $2,640,000, fut une des mieux combinées de la carrière du détective cambrioleur. Elle fit grand bruit, autant par l'importance de la somme que par les moyens mis en œuvre par John Strobbins pour se l'approprier. Sans doute parce qu'il estimait nécessaire que le silence se fît un moment autour de son nom, ou bien parce qu'il s'occupait, sous un nom supposé, à dépenser joyeusement le fruit de son ingéniosité, toujours est-il que, pendant les 4 mois qui suivirent cette affaire, nul à San Francisco, pas plus qu'ailleurs, n'entendit parler de ce gentleman. Le chef de la sûreté de la capitale de la Californie, l'honorable James Morley Scott, respira. Il crut son cauchemar évanoui. Il espéra que John Strobbins, gavé d'argent ou pris du goût des voyages, avait enfin mis un terme à ses exploits, ou du moins en avait transporté le théâtre ailleurs. Il ne se trompait qu'à moitié, tant il est vrai que ce digne policier ne faisait jamais les choses entièrement. John Strobbins, en effet, était loin de San Francisco, à l'autre bout de la vaste terre. Mais à l'heure présente, les trains vont vite, les paquebots volent sur les océans domptés. Et sagement, John Strobbins, s'il allait fort loin, quelquefois manigancer ses extraordinaires combinaisons, ne manquait jamais de revenir à San Francisco, ville qu'il affectionnait non point tant pour la douceur de son climat que pour les commodités qu'il y trouvait pour déjouer les ruses de ses ennemis naturels, ce qui s'entend par gens riches et policiers. M. James Morley Scott, aussi bien que son utile et fidèle limier, le détective Peter Gransby, était loin de songer à John Strobbins lorsque, par une belle soirée de novembre, il se promenait sur les quais de San Francisco. Les deux hommes, les lèvres bouchées d'un énorme cigare, confisqués à quelques contrebandiers, n'échangeaient que quelques rares paroles. Il prenait plaisir à voir glisser sur l'eau noire les massifs ferry boats étincelants de lumière et manœuvrer les énormes cargos remplis de grains qui lentement accostaient les quais. À petits pas, les deux hommes, béats, avançaient parmi les ballots et les caisses encombrant la chaussée sous la lueur violente des lampadaires électriques hauts comme des tours. C'était la fin de la journée. Le sifflement de la vapeur, le cliquetis métallique des treuils, les interpellations des dockers se faisaient de moins en moins bruyantes, comme si hommes et machines sentaient pareillement leur fatigue. James Morley Scott cracha son cigare qui menaçait de lui brûler la moustache et murmura « Je rentre, Gransby. Venez-vous, nous dînons ensemble. » Peter Gransby ne répondit pas. Depuis quelques instants, il examinait la manœuvre incertaine et maladroite d'un grand 3-mâts qui, tiré par 2 puissants remorqueurs, se rapprochait peu à peu du quai. James Morley Scott, surpris de ne pas avoir de réponse, toucha son compagnon à l'épaule et grogna « Gransby, old fellow, voilà que vous êtes sourd maintenant. »« Quoi, moi, sourd, chef ?» fit le détective en tressaillant. « Pas le barkeeper d'en face, bien sûr. Je viens de vous inviter à dîner avec moi. Vous ne me répondez même pas. »« Oh, chef, excusez-moi. Vraiment, je n'avais pas entendu. » Je regardais accoster ce voilier qui manœuvre depuis du bon sens S'il enfonce pas lequel, je vais être pendu. Monsieur James Molescott haussa les épaules. Les choses de la marine lui importaient peu. Et il avait faim. Pourtant, il regarda le trois-mâts. Malgré tout, il montra quelques surprises. Les voiles du navire, mal carguées, étaient gonflées par la brise du nord-ouest qui poussait rapidement le croisement vers le quai, malgré les efforts des remorqueurs pour le retenir. Des hurlements retentissaient, décuplés par le cuivre des porte-voix. « Oh, du navire, serrez vos voiles! Qu'attendez-vous? Allez, amenez vos perroquets! Mais vous allez toucher! Capitaine, capitaine, bloody fool! Rascal, vous allez défoncer le quai! Oh, du navire, oh !» Mais sur le trois-mâts, nul ne bougeait. L'éclat des lampadaires électriques du quai permettait d'apercevoir les marins groupés à l'arrière, immobiles et qui semblaient se désintéresser complètement de la manœuvre du navire. De fait, sous l'effort du vent en gonflant ses voiles, le trois-mâts dérivait vers le quai avec une vitesse toujours croissante. L'abordage maintenant paraissait inévitable. Une foule de dockers, chartiers, simples brassants se formaient pour ne rien perdre de la catastrophe. Et déjà des paris s'engageaient. Oh, il va taper près du canon. Mais non, mais non, c'est là, près du réverbère, qu'il cognera. Garde sous. Mais t'es fou, levant le pouce vers le canon. Et 5 $ qui va démolir le lampadaire avec son beau prêt. Tenu. Le trois-mâts n'était plus qu'à 10 mètres. L'angoisse avait fait taire la foule. On n'entendait que le halètement précipité des machines des remorqueurs qui s'efforçaient en vain de ralentir l'élan du mystérieux navire. Les marins, toujours immobiles à l'extrême arrière, regardaient curieusement la foule et l'on pouvait percevoir le murmure indécis de leur conversation. James Molescott et Peter Clansby, curieux par profession, s'étaient mêlés à la foule. Soudain, il y eut un remous dans l'assistance. Le bout or du trois-mâts venait de surplomber le quai. Oh, ce fut une panique! De tous côtés, les curieux s'enfuirent. Au même instant, l'avant du voilier, tel un coin d'acier, heurta les pierres du quai. Elles éclatèrent sous le choc avec un bruit comparable à celui d'une décharge d'artillerie. Sous l'effort de sa masse, le trois-mâts pénétra à plus de 2 mètres dans le quai, puis se coucha sur le flanc. Des craquements précipités crépitèrent, et l'un après l'autre, le mât de misaine, le grand mât et le mât d'artimon, brisés au ras du pont par la violence du choc, s'abattirent sur le côté en tenant avec eux vergues, agrès et voiles. 1000 cris d'horreur retentirent. Un des deux remorqueurs venait d'être atteint par une des vergues. Sa cheminée écrasée et sa chaudière éventrée lancèrent vers le ciel un jet de vapeur et de flammes, à la lueur desquelles on vit un homme sanglant se dresser dans une attitude de terreur effroyable. Puis tout rentra dans le noir et le remorqueur, frappé à mort, s'engloutit d'un seul coup au milieu d'un tourbillon d'écume. Le trois-mâts, enfoncé comme un clou dans le quai, que son avant dominait de plusieurs mètres, ne bougeait plus. Ses marins avaient couru vers le gaillard et déjà s'occupaient à installer des échelles pour descendre à terre. La foule, maintenant qu'il n'y avait plus de danger, refluait vers le navire en poussant des cris de mort. 2 hommes, déterminés, bondirent vers un agrès qui pendait et se mirent en devoir de se hisser sur le trois-mâts, dont on pouvait très bien lire le nom peint de chaque côté du beaupré, Corisandre. Jack Olescott et Peter Clinesway n'avaient rien perdu du drame rapide. Il n'avait pas duré 5 minutes qui venaient de se jouer sous leurs yeux. Le chef de la sûreté tira de sa poche son sifflet d'argent et modula un son strident pour appeler les policemen du voisinage. « Mais que personne ne monte ni ne descende de ce navire !» dit-il rapidement à Peter Grimsby. « Oui, chef. » Le détective sortit son revolver et bondit vers les deux hommes qui lentement se hissaient le long des agrès pendant contre la coque du Chrysandre. « Redescendez, ordonnez-vous ou le tir ?» Les deux gaillards tournèrent la tête. Un instant, ils hésitèrent. Mais, à son attitude, ils comprirent que le détective ne plaisantait pas et se laissèrent glisser sur le sol. Grimsby, les ayant dévisagés, s'écria « Ne bougez pas, hein, restez ici !» Les deux hommes tressaillirent, puis, prenant soudain leur parti, ils bondirent vers le bord du quai. Et avant que le détective, surpris, ait eu le temps de faire usage de son arme, se jetèrent à l'eau et disparurent au milieu des épaves jonchant le port. Sur le Chrysandre, les marins s'apprêtaient à descendre par l'échelle de corde qu'ils venaient de fixer à la rambarde du gaillard d'avant, mais Peter Grimsby brandit son revolver. « J'abats le premier qui descend !» gronda-t-il. Les marins n'osèrent pas désobéir. Autour du détective, la foule immobile continuait ses clameurs de mort. Un instant arrêtée par le revolver de Grimsby, elles allaient de nouveau se ruer à l'assaut du fatal navire lorsque James Molescott, entouré de 6 policemen accourus à l'appel de son sifflet, apparut. À son aspect, les assistants s'écartèrent. « Restez ici avec 4 hommes, Clinesby, dit-il, et que personne ne débarque sans mon ordre. Je vais envoyer un homme téléphoner à la caserne de Marble House pour que l'on m'envoie du renfort. Je vais voir ce qui se passe à bord de ce navire. Dick, Ralph, suivez-moi. » Et James Molescott, empoignant l'échelle de corde que venaient de fixer les marins du trois-mâts, se hissa à bord du Chrysandre. Les 2 policemen, Dick et Ralph, qu'il avait désignés, le suivirent. « Hands up, les mains en l'air !» ordonna Molescott aussitôt arrivé sur le pont du navire, et il tira son revolver. Dick et Ralph l'imitèrent. Les marins, maugréants, obéirent. « Où est le capitaine ?» demanda le policier. Pas de réponse. « Mais où est le capitaine ? Entendez-vous, rascal ? Je suis le chef de la sûreté de San Francisco. Je vous ferai tous coucher en prison ce soir. » Les matelots lancèrent des regards de haine à Molescott. L'un d'eux, après une brève hésitation, s'écria « Ben, il est là-bas, tenez !» Molescott se tourna vers l'endroit indiqué par le marin et aperçut un être échevelé, vêtu d'un uniforme abracadabran, pantalon de toile blanche, bariolé de vert et de rouge, vareuse de flanelle écarlate, où étaient accrochées 3 pipes et un potelin à moutarde. L'homme était coiffé d'une ceinture de flanelle qui lui entourait la tête au ras des yeux. De hautes bottes de toile peintes le chaussaient. Accroupi sur le pont, près du tronçon du grand mât, il s'occupait tranquillement à gratter avec son couteau une carte marine toute déchirée. À l'aspect de ce bizarre individu, James Molescott haussa violemment les épaules. « Alors, dit-il au marin, vous ne voulez pas me dire où est votre capitaine ?»« Mais puisqu'on vous dit que c'est celui que vous voyez là, » reprit le matelot qui avait désigné l'homme si drôlement accoutré. Et comme Wallace Scott faisait un geste de menace, il reprit. Ben, que vous le croyez ou que vous le croyez pas, c'est notre capitaine, le skipper Sam Arundel de Glasgow. D'ailleurs, ses papiers sont dans sa cabine. James Wallace Scott regarda bien en face son interlocuteur. Et vous, dit-il brutalement, qui êtes-vous vous-même? Basil Stockman de Newport, bossman du Corizand. Alors l'homme qui est là est votre capitaine. Ben il y paraît, grogna Bas Stockman. Et le premier officier, où est-il? Malade, dans sa cabine. Le lieutenant, il n'y en a pas. Mais la loi américaine oblige les navires naviguant au long cours d'avoir à bord au moins 3 officiers. Et moi, me prenez-vous pour un cancre là? C'est bon, vous discuterez cela avec le prosecuting attorney. D'où venez-vous? De Fremantle. Fremantle? Oui, Fremantle. Fremantle en Australie. Et c'est vous qui avez commandé la manœuvre? Oui. Mais pourquoi avez-vous jeté votre navire contre le quai? Ben, pas fait exprès. Je l'espère pour vous. Fallait faire attention. On vous criait de serrer vos voiles. Vous saviez bien que cela doit se faire lorsqu'on entre dans un port. Probable, et c'est pas vous qui me l'apprendrez. Et alors pourquoi n'avez-vous pas fait? Ben, dites-moi, monsieur le chef de je sais pas quoi, de la sûreté californienne, et je pourrais bien vous l'apprendre avant peu. C'est rien à voir, mais quel droit vous m'interrogez? Il y a un capitaine et un second à bord. Allez les voir. Je suis que bossman, moi. J'ai fait pour le mieux. D'abord, le tribunal maritime appréciera. Jeff Wallace Scott regarda l'insolent Basil Stockman dans les yeux. Je vous demande pourquoi vous n'avez pas fait carguer les voiles en arrivant dans le port, dit-il. Hélène Damite, mais vous avez donc de la boue dans les yeux, s'exclama le bossman. Il se servit même d'un mot plus énergique que boue. Les hommes ne se tiennent plus debout, mais regardez-les. Il y en a 12. Ils étaient 27 au départ. Nous avons eu une épidémie de beriberi et ceux qui ont survécu valent pas mieux que ceux qui sont morts. Je leur ai fait d'en bas carguer les voiles pour les serrer complètement. Il m'a fallu les envoyer dans la monture. Ils sont pas seulement capables de se tenir droit. Et ils seraient tombés comme des punaises d'un plafond lorsque la maison s'écroule. L'homme haussa les épaules. James Wallace Scott regarda les marins et s'aperçut alors qu'ils avaient tous des faces de cadavres. Leur peau jaunâtre et sèche était collée sur leurs os. Un large cercle de bistre cerclait leurs yeux caves et qui brillaient de fièvre. Il n'insista pas et, risquant à chaque pas de glisser sur le pont incliné du navire à demi chaviré, il descendit du gaillard d'avant et se dirigea vers l'homme à costume de carnaval que Basil Stockman lui avait affirmé être le capitaine Sam Arundel. Ce dernier, s'apercevant que James Wallace Scott marchait sur lui, se leva et resta 2 secondes immobile. Puis, soudain, il arracha le pot à moutarde accroché à sa vareuse et le lança de toutes ses forces dans la direction du chef de la sûreté. James Wallace Scott dut à une opportune inclinaison de tête de n'avoir point le crâne brisé. Furieux, il leva sa main armée d'un revolver. Il allait tirer lorsque Sam Arundel éclata de rire et se mit à danser une jig effrénée. en hurlant « Le capitaine de Chicago qui mange la viande et laisse les os. Allô, 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 je suis le capitaine de Chicago. » James Mollet Scott ne douta plus qu'il avait un fou devant lui. Il se dirigea vers l'arrière du navire en faisant un crochet pour éviter le personnage. Mais celui-ci, interrompant sa gigue, Bonnet bondit à la suite du chef de la sûreté. Il allait atteindre Mollet Scott, mais d'un coup de poing asséné au milieu du visage, le policier l'envoya rouler sur le pont et poursuivit sa marche. Jeff Mollet Scott gravit l'échelle de la dunette et pénétrant dans les logements des officiers. Il eut sur une porte « Chief officier » et y frappa. « Entrez !» dit une voix faible. Mollet Scott obéit. Il ouvrit la porte et pénétra dans une étroite cabine meublée d'un lit surélevé, surmontant trois tiroirs et d'une banquette embourrée de crins. Par un étroit hublot, la lueur blafarde des lampes électriques du quai filtrait tant bien que mal. « Que voulez-vous, gentleman ?» demanda l'homme qui était couché dans le lit. « Je suis le chef de la sûreté de San Francisco. »« Ah, nous sommes à San Francisco, alors ?»« Mais vous ne le savez pas. Non, j'ai les deux jambes brisées. » « Je suis pas monté sur le pont depuis 3 semaines. »« Oui, j'ai entendu tout à l'heure des hurlements et un choc sourd. »« Nous avons touché le quai, n'est-ce pas ?»« Et la voiture est en bas. » Eh oui, et vous êtes le premier officier du navire ?»« Oui, monsieur, William Winkler, capitaine de la marine britannique. »« Et savez-vous que le capitaine est fou ?» Non, je le savais malade, il est fou. Mais oui, qu'est-il arrivé? William Winkler allait répondre. À ce moment, un bruit de pas précipité se fit entendre sur la dunette. Un grand gaillard, maigre, au visage osseux et basané, apparut à la porte de la cabine. James Mollet Scott le vit et s'écria. « Oh, monsieur Buggy Black, vous ici ?» C'était en effet Mr. Buggy Black, propriétaire du Moon's Hall Bar, un des plus beaux établissements de San Francisco, qui était devant lui. « Oui, moi, » grogna Buggy Black. « Ce navire m'appartient. Laissez-moi, je vous prie. Oh, Mr. Winkler, où est Mr. Simley le... Ce brigand. Mais il est mort, je pense. Il a reçu une poulie sur la tête un peu avant le passage de la ligne. Ah, c'est cela, il est mort. Et le capitaine est fou. Mais c'est vous qui les avez assassinés, misérables. Mais ça, balbutia William Winkler, indigné, en essayant de s'adressait sur son séant. Mais il poussa un râle de douleur et retomba les dents claquantes. « Mr. Mollet Scott, » s'écria Buggy Black, « j'accuse cet homme d'avoir assassiné le subrécargue Fenton Smiley et d'avoir, par des manœuvres que la justice élucidera, provoqué la folie du capitaine Sam Arundel. » James Mollet Scott resta impassible. « L'accusation que vous portez là est grave, monsieur Buggy Black, » dit-il. « Et, sans vouloir la discuter, il est de mon devoir de vous demander si vous possédez quelques preuves à l'appui de vos dires. De tout l'équipage que je viens d'interroger témoignera, monsieur Mollet Scott. » « Je ne vois pas bien le motif, » dit le chef de la sûreté. « Le motif !» Et Buggy Black eut une brève hésitation. « Le motif, il est clair. De s'emparer du navire et de le vendre, sans doute. À lui tout seul, blessé comme il l'est, mais que vouliez-vous que cet homme fasse d'un navire? Comment l'eût-il manœuvré? Mais monsieur Molescott, il n'était pas encore blessé quand le subrécargue est mort et que le capitaine est devenu fou. Et sans doute devait-il avoir des complices parmi les matelots qui sont morts et même parmi ceux qui survivent. Le chef de la sûreté de San Francisco hocha la tête. Nous verrons cela, dit-il. En attendant, je vais faire transporter cet homme à l'hôpital où il sera consigné à la disposition de la justice. Et je suis innocent, clama William Winkler, qui avait écouté ce colloque en silence. Mais dans ce cas, vous ne craignez rien, fit James Molescott, paisible. Voulez-vous m'accompagner, monsieur Buggyback? J'ai quelques renseignements à demander à cet homme, fit l'interpellé après un bref silence. À votre aise. C'est bon, je vous serai obligé de bien voir passer tout à l'heure à mon cabinet. Montgomery Avenue. Vous pouvez compter sur moi, monsieur Molescott. Le chef de la sûreté inclina la tête et sortit de la cabine. Et tout à coup, au moment où il saisissait la rampe de l'escalier conduisant sur la dunette, un homme titubant sortit d'une des cabines. Il regarda James Molescott d'un air stupide et rira là. Oh, John Robbins! John Robbins! John Robbins! Répéta James Molescott, devenu d'une pâleur mortelle. Mais l'homme étendit les mains comme pour se retenir et s'écroula d'un seul coup, foudroyé. James Molescott, hagard, se pencha sur lui et reconnut qu'il était mort. John Robbins, mais que venait faire John Robbins dans cette affaire? James Molescott, immobile, se le demanda. Il sentit confusément que, du moment que le détective cambrioleur était mêlé à cette sinistre histoire, il ne pouvait advenir que désagréments et ennuis pour lui, Molescott. Le chef de la sûreté de San Francisco, après un dernier regard au marin mort si tragiquement à ses pieds, enjamba le cadavre et remonta sur la dunette. De là, il gagna l'avant du Corisandre, où les marins se tenaient sous la surveillance des policemen Dick et Ralph. Il se dirigea droit sur Basil Stockman et dit « Suivez-moi, vous !» Le maître d'équipage, d'un air indifférent, fendit le groupe de marins au milieu desquels il pèrerait et emboîta le pas aux policiers. James Molescott le mena devant le cadavre du matelot et demanda « Quel est cet homme ?» L'obscurité régnant dans la descente de la dunette ne permit pas à Molescott de s'apercevoir de l'effroyable pâleur de Basil Stockman à la vue du cadavre. Pourtant, le maître d'équipage, s'étant rapidement ressaisi, répondit d'une voix calme « Oh, mais c'est un de nos matelots. Il est mort, je crois bien. Non, je vous demande le nom de cet homme, » fit Molescott impatienté. « C'est un Français, Maurice Cabasson. Il est embarqué à Fremantle. Mais tout à l'heure, il était avec nous. Maintenant, il est mort, à ce qu'il paraît. Mais quand je vous disais qu'à bord de ce maudit navire, les vivants ne valaient pas mieux que les trépassés. » James Molescott haussa les épaules. « Et John Robbins ?» John Robbins, répéta machinalement Basil Stockman. Et John Bolle Scott perçut que sa voix tremblait légèrement. Oui, qu'est devenu John Flamins? Répondez-moi, sans hésiter, ou je vous fais arrêter immédiatement. À la dernière syllabe du dernier mot de sa phrase, James Bolle Scott reçut soudain un formidable coup de tête dans le ventre qui le fit s'aplatir contre la cloison et s'écrouler sur le cadavre du matelot français. Étourdi, il voulut se relever. Il appela à lui toutes ses forces, concentra son énergie. Mais vainement, la commotion avait été trop forte. Sans pouvoir bouger ni parler, le chef de la sûreté de San Francisco vit Basil Stockman bondir dans l'escalier et disparaître. Quelques minutes s'écoulèrent. James Bolle Scott, se sentant quelque force, se releva et, titubant, s'accrochant à la rampe, il parvint à remonter sur la dunette. L'air frais de la nuit le réconforta. Il jeta un regard circulaire autour de lui et vit sur le quai une vingtaine de policemen qui contenaient la foule. À l'avant du trois-mâts, les marins n'avaient pas bougé. James Bolle Scott se dirigea vers eux. Son intention était de faire arrêter tout le monde. Après, on verrait. Et tout à coup, comme il se trouvait au milieu du navire, il sentit le trois-mâts vibrer sous ses pieds et entendit en même temps un gargouillement sourd. Deux secousses ébranlèrent le corysandre qui s'inclina lentement et des cris de terreur retentirent. Nous coulons! Nous coulons! À terre! À terre! Le gargouillement devenait de plus en plus fort, cependant que le trois-mâts s'inclinait avec rapidité. James Bolle Scott, pouvant à peine se tenir sur ses jambes, autant à cause de sa faiblesse que par suite de la déclivité du pont, siffla et cria aux deux policemen qui, stoïques, restaient immobiles sur le gaillard pendant que les marins se laissaient glisser à terre. Qu'on arrête tout le monde! Oui, chef, répondit un des policemen. Le corysandre avait cessé de s'incliner. Maintenant, il coulait lentement par l'arrière. Déjà, l'eau atteignait le niveau du pont inférieur. Il ne restait plus à bord que Mollet Scott et les deux policemen, Dick et Ralph, qui attendaient l'ordre de leur chef pour se laisser glisser, eux aussi, sur le quai. James Bolle Scott allait le leur donner lorsqu'il se souvint du second William Winkler qui gisait les jambes cassées dans une des cabines de la dunette. Il faut rendre cette justice au chef de la sûreté qui ne pensa pas un instant que le blessé était somme toute un inculpé. Il ne vit en lui qu'un homme à sauver. Ralph, Dick, cria-t-il de toutes ses forces, venez ici! Les deux policemen, après un instant d'hésitation fort naturelle, car le corysandre s'enfonçait avec une rapidité effrayante, rejoignirent leur chef en courant. Suivez-moi, dit Mollet Scott. Et autant que lui permettaient ses forces, le chef de la sûreté se hâta vers la dunette. Déjà, l'eau effleurait les hublots. Les trois hommes dégringolèrent l'escalier, enjambèrent le cadavre du matelot français et arrivèrent devant la porte du chief officer. James Bolle Scott l'ouvrit. Le hublot, heureusement fermé, devait être sous l'eau, car une obscurité complète régnait dans la petite chambre. À tâtons, Bolle Scott s'approcha du lit. Capitaine, dit-il. Vous êtes là? Oui, nous coulons, n'est-ce pas? Oui, mais je viens vous chercher. Je suis le chef de la sûreté. Oh, laissez-moi mourir, pour ce que ce ma carcasse vaut. Alve dit que vite elle est là droit devant vous. C'est cela, non, vous le sentez, oui. Bon, mais allez, empoignez-moi cet homme, mais avec douceur. William Winkler poussa un gémissement. Avec douceur, tonnerre, grogna Brescott. Il a les jambes brisées. Vous l'avez? Oui, chef. En route, alors, et vite. Suivez-moi et attention à ne pas tomber. Oh, quelle affaire! James Brescott, les poings crispés de rage. Il regrettait de n'avoir pas le temps de faire une perquisition qui eut sans nul doute été fructueuse. Se dirigea vers l'échelle. Il la gravit et arriva sur la dunette dont le plancher était au ras de l'eau. Il se tourna vers le quai et hurla. « Des cordes, envoyez des cordes, il y a un blessé !»« Oui, chef, » répondit Peter Cransby. Il y eut un brouhaha. Des hommes coururent et presque aussitôt, une dizaine de cordages lancés du quai s'abattirent sur le pont du Corisandre, en même temps que Ralph et Dick, portant William Winkler, apparaissaient. James Prescott sentit l'eau venir à ses chevilles. Il bondit, il empoigna l'extrémité de la corde la plus proche de lui et courut vers les deux policemen. En 2 secondes, il eut passé la corde sous les aisselles du blessé et l'assujettit au moyen d'un solide nœud. « Hiss !» hurla-t-il. 20 bras halèrent le cordage et enlevé comme une plume, le chief officer du Corisandre, inerte, s'éleva vers le quai. « Montez, vous autres !» ordonna Prescott aux 2 policiers. Ceux-ci empoignèrent chacun une corde et commencèrent à se hisser. Il était temps. Le Corisandre était aux 3/4 sous l'eau, et des frémissements, précurseurs de la catastrophe finale, l'agitaient. James Prescott attrapa une corde. Il eut à peine le temps de s'y cramponner, car soudain le trois-mâts empli d'eau s'arracha du quai dans lequel son avant était coincé et, crevé, disjoint, disparut dans l'eau noire qui se referma sur lui. James Prescott se hissa sur le quai. Il était haletant. Son premier regard fut pour le malheureux Winkler que l'on venait d'étendre sur une bâche aussitôt apportée. « Cresby ! » cria-t-il. Le détective, qui s'occupait du blessé, accourut. « Les marins de ce navire, les a-t-on arrêtés ?»« Oui, chef. 20 policemen venaient d'arriver. Ils ont recueilli ces drôles à leur descente du navire et les ont emmenés aussitôt à la sûreté. « Bon, bien vous ferez conduire ce blessé à l'hôpital. Il y a... » Des hurlements atroces retentirent. La foule reflua vers le bord du quai. Les cris montaient de la surface de l'eau. Prescott et Cransby, intrigués, coururent eux aussi voir ce qui se passait. Et ils aperçurent au milieu de l'eau noire une tête enrubannée d'une ceinture de flanelle. James Prescott reconnut sans hésiter le capitaine fou du Corisandre, Son Arundel, qu'il avait perdu de vue depuis sa rencontre avec le matelot français. « Mais il faut sauver cet homme » cria-t-il. « Allez-y, avec précaution, car il est fou !» Une embarcation se détacha aussitôt du quai, montée par 2 douaniers qui avaient entendu et se dirigea vers le dément. Mais Sam Arundel, tout en continuant ses hurlements, nageait avec l'aisance et la vélocité d'un poisson. Avant que le canot l'eût rejoint, il atteignit une des échelles de fer fixait dans le quai et la gravit en trois bonds. « Empoignez-le !» dit Mollet Scott. « Et attention, c'est un fou !» Deux détectives se précipitèrent sur Sam Arundel. Le premier s'affaissa après avoir reçu un terrible rouan dans le ventre, et le second, rendu prudent, n'évita pourtant pas un coup de poing magistralement asséné qui lui cassa trois dents. Et le fou, triomphant, clama « Je suis le capitaine de Chicago !» Court triomphe, car trois autres détectives le saisirent par derrière et l'ayant immobilisé malgré ses efforts, lui passèrent les menottes. « Qu'on l'emmène à la sûreté !» grommela Mollet Scott. « Il n'est peut-être pas si fou que cela. Kennedy restera ici avec quatre hommes, on ne sait jamais. Je vous ferai relever à minuit. »« Bien, chef. » James Wallace Scott resta un instant immobile, réfléchissant. Il n'avait rien oublié. Le fou était pris, le malade à l'hôpital et les marins coffrés. Seul le bosseman avait échappé. Mais on verrait à le retrouver. Satisfait de lui-même, Mollet Scott fendit la foule qui stationnait sur le quai et, avisant une auto de louage qui passait, il se fit conduire à la sûreté. Il se dirigea aussitôt arrivé vers le quartier des prisonniers. Où a-t-on mis les hommes arrivés tout à l'heure ? Demanda-t-il au gardien-chef. Quels hommes, monsieur Mollet Scott ? Ben, les marins du Corisandre. Il y en a 10 ou 12, voyons. 10 ou 12 ? Mais depuis ce soir, à 5 heures, aucun prisonnier n'a été amené ici, monsieur Mollet Scott. Dire que Jem Mollet Scott s'attendait à pareille réponse serait exagéré. Pourtant, il resta calme. Dès l'instant où le nom de John Strabbins avait été prononcé devant lui, il avait envisagé et prévu les pires éventualités. D'une voix lente, bien scandée, il dit au gardien-chef « Ainsi vous êtes bien sûr qu'on n'a pas amené ici ni les marins du trois-mâts Corisandre qui vient de couler dans le port. Mais je n'ai pas bougé de mon bureau depuis 2 heures de l'après-midi, monsieur Mollet Scott. Je suis même fait apporter à dîner. Alors, mais comment, vous ne mangez pas chez vous ? » dit Mollet Scott surpris. « Si, d'habitude, mais pas en ce moment. Ma femme est en voyage. Aussi, je préfère me faire apporter mes repas d'un restaurant voisin. » Bon, c'est bien, mais si les prisonniers dont je vous ai parlé arrivaient, veuillez m'en aviser immédiatement à mon cabinet. Oh, vous pouvez compter sur moi, monsieur Mollet Scott. » Le chef de la sûreté de San Francisco, ayant salué d'une brève inclinaison de tête, s'éloigna à pas rapide et gagna son bureau. Il sonna immédiatement et, au planton accouru, ordonna de lui envoyer le détective Peter Crisby lorsqu'il arriverait à minuit. Puis, comme il avait faim, il se fit apporter un repas froid qu'il attaqua avec grand appétit. Tout en mangeant, il réfléchissait aux événements de la soirée. Et ses pensées étaient moroses. Que venait faire John Strabbin dans cette affaire ? Tel était le principal point d'interrogation que se posait le policier. Mais sans pouvoir le résoudre. Il ne douta point que la disparition des marins eût été opérée par le détective cambrioleur. Mais dans quel but ? Quel lien unissait ce capitaine fou, cet officier blessé et ce maître d'équipage en fuite ? De quoi était mort le marin qui avait crié le nom de John Robbins ? soit par l'officier blessé, soit par Master Buggy Black, puisque ce dernier se disait propriétaire du Corisandre, James Mollet Scott espéra trouver un fil conducteur pour démêler cette étrange histoire. Il se souvint que M. Buggy Black lui avait promis de venir à son cabinet dans la soirée. D'ailleurs, il savait où le retrouver et cette pensée le rasséréna. Il avait presque terminé son repas lorsqu'on frappa à la porte. « Entrez !» s'écria Mollet Scott. Peter Clansby parut. Sa figure décelait une grande agitation. À l'interrogation muette qu'il lisait sur le visage de son chef, il répondit « J'ai conduit le blessé à l'hôpital de Templehead. Le fou est dans un deck à chaud, ici en bas. » « Mais il me semble que vous avez dit de rester en faction sur le quai jusqu'à minuit, » fit Mollet Scott, se souvenant soudain de l'ordre donné au détective. « Chef, j'ai pris sur moi de venir. Un quart d'heure après votre départ, je vis arriver sur le quai une dizaine de policemen. J'ai interrogé leur chef, le brigadier Hormack, et j'ai appris qu'ils arrivaient de la caserne de Merrill House. Or, comme c'est de là qu'étaient déjà venus les hommes qui avaient arrêté le marin du Corizon, Mais où sont-ils, ces marins ? Interrompit Jeff Mollet Scott. On les a pas vus ici. Ben, je vais vous le dire, chef. Bon, j'interrogeais donc le brigadier Hormack et lui demandais ce qu'il venait faire puisque déjà 20 policemen de sa caserne étaient devenus. À ma grande surprise, il m'affirma qu'aucun autre détachement que le sien n'était parti de Marble House depuis 6 heures du soir pour la relève. « My God, j'aurais dû m'en douter !» éclata Mollet Scott. « Oh, c'est un coup de John Strabbins, je le reconnais là !»« John Strabbins ?» fit Peter Clansby ahuri. « Oui, John Strabbins, c'est lui qui a tout fait !» Oh, vous avez une piste, chef ? S'écria le détective subitement intéressé. Oui, dites-moi la fin de votre entretien avec le brigadier Hormack. Eh bien, chef, j'ai eu l'assurance que les policemen qui avaient arrêté les marins ne sortaient pas de Marble House. Et pris d'une subtile méfiance, je me souvenais du coup du Cadmore Castle, encore un méfait de John Strabbins. Je priais le brigadier Hormack de prendre la garde à ma place, et j'allais ensuite téléphoner dans tous les commissariats et corps de garde de la ville. Aucun n'avait envoyé de policemen. Je compris alors que nous avions été joués et sautais dans une auto pour vous prévenir. Voilà, chef. Monsieur James Mollet Scott se prit la tête dans ses mains et pendant quelques instants s'absorba dans une intense méditation. Il commençait à comprendre une chose. John Strabbins avait intérêt à ce qu'aucun des marins du Trois-Mâts ne parlât, puisqu'il les avait fait disparaître. Et ce Basil Stockman, le maître d'équipage, qui s'était si démerveillement enfui, devait être son complice. Restait à savoir le but poursuivi par le détective cambrioleur. « C'est certain, » fit James Mollet Scott tout haut. « Nous avons devant nous John Strabbins. Oh, tout cela porte sa marque. S'il n'était pas à bord du Trois-Mâts, du moins rien ne s'y est fait que sur ses ordres. Non, il ne tue jamais. Il s'est contenté de rendre fou le capitaine et aura brisé ou fait briser les jambes du chef officer, afin que, confirmé dans sa cabine, le blessé ne pût voir ce qui se passait. Pourtant, M. Begeba, qui est le propriétaire du navire, accuse le chef officer. Oh, je ne t'en dis rien à comprendre. Oh, l'affaire est embrouillée, chef, murmura Peter Clensby, qui avait écouté avec attention le monologue de James Mullen Scott. Même malgré tout, je ne vois pas pourquoi vous mêlez John Chobin dans ce drame. Il doit être bien loin. Mais je parle de John Chobin parce qu'un des marins du Corisandre est venu mourir tout à l'heure à mes pieds en prononçant ce nom. Et James Mullen Scott fit le récit de ce qu'il avait vu et entendu à bord du voilier. Pendant quelques instants, les deux hommes restèrent silencieux. Enfin, Peter Clansby donna son opinion. Sans nul doute, chef, un crime a été commis à bord de ce navire, sur les ordres de John Robbins, à qui il profite. Mais dans quel but? Voilà ce que Monsieur Baggy Black, le propriétaire du Corisande, pourra sans doute nous dire. Oui, il m'a promis de venir ici dans la soirée. Ben, il est bientôt 11 heures, chef, et peut-être serait-il bon de lui rappeler sa promesse. Voulez-vous que j'aille au Moon's Hall Bar? Je vais le ramener. James Mullen Scott allait répondre lorsque deux coups légers résonnèrent contre le bois de la porte. Oh, ce doit être lui, fit le chef de la sûreté. Il ajouta: Entrez! Déception. C'était un policeman en uniforme. Bon, que voulez-vous? Grogna Mollet Scott, furieux à l'aspect de ce visiteur. Chef, c'est l'inspecteur Mason qui m'envoie. En faisant notre ronde tout à l'heure, moi et mon collègue Turnabout, nous aperçûmes à l'angle de la Toronto Avenue et de la 118e rue le corps d'un homme étendu dans le renfoncement d'une porte. Croyant avoir affaire à quelque ivrogne, nous nous penchâmes pour le relever, et nous nous aperçûmes alors qu'il portait un poignard enfoncé jusqu'aux manches entre les épaules. Il avait vomi beaucoup de sang que de loin nous avions pris pour du vin, ce qui nous avait fait penser que l'homme était ivre, car ses vêtements étaient complètement imbibés. Après, après, coupa Mollet Scott, allez au fait. Oui, chef, alors nous transportâmes donc le blessé. Ah, l'homme n'était pas mort. Non, chef, nous le transportâmes au poste de police de la Toronto Avenue, d'où un médecin fut appelé par téléphone par l'inspecteur Mason, qui se trouvait là. Le médecin parvint à retirer le poignard de la plaie et pansa le blessé qui revint à lui. Et tout en crachant le sang, parla, malgré la défense du docteur, et il cria: Monsieur Mollet Scott, Monsieur Mollet Scott, le coïssandre! Et il s'évanouit. Alors, comme le médecin déclarait que le transport du blessé à l'hôpital était impossible pour le moment, Monsieur Mason m'envoya vous prévenir. Il pourrait me téléphoner, grommela Mollet Scott. Et le nom du blessé? Sait-on le nom du blessé au moins? Oui, chef, oui. Oh, j'oubliais. Je vous demande pardon. C'est Monsieur Buggy Black, le propriétaire du Moonshot Bar. James Mollet Scott et Peter Clansby se regardèrent sans trouver un mot. Le chef de la sûreté de San Francisco leva. Venez, dit-il à Clansby. Nous allons tenter d'interroger Monsieur Buggy Black, s'il vit encore. Rapidement, James Mollet Scott revêtit son ample manteau et coiffa son chapeau melon. Venez vous aussi, dit-il au policeman qui, immobile, attendait. Les trois hommes sortirent de l'hôtel de la sûreté. Une auto les conduisit dans quelques minutes devant le poste de police de Toronto Avenue. James Mollet Scott n'attendit même pas que la voiture se fût arrêtée pour sauter sur le sol. En deux bonds, il fut dans le poste de police. Il traversa l'antichambre et entra dans le bureau du brigadier. Là, sur un matelas posé à terre et qu'entouraient trois hommes, il aperçut le blessé. M. Buggy Black ressemblait à un cadavre. Sa face immobile et exsangue, ses yeux fermés, ses narines pincées, sa bouche entr'ouverte, tout en lui montrait l'image de la mort. « Alors, » fit Malin Scott, un des hommes debout autour du blessé, c'était l'inspecteur Mason, « a-t-il dit quelque chose ?»«
Non, chef, rien. Il ne faut pas essayer de l'interroger pour l'instant, » observa à voix basse un des assistants. « Le moindre mouvement pourrait être fatal au blessé. Il a un poumon percé de part en part. »
James Molley Scott comprit que c'était le médecin qui venait de parler. Il baissa la tête en signe d'assentiment et entraîna l'inspecteur Mason dans la pièce voisine.
« Avez-vous des détails ? » demanda-t-il. « Non, chef, je viens d'envoyer deux détectives procéder à une enquête sur l'emploi du temps de M. Buggy Black ce soir. Le blessé avait beaucoup d'ennemis. C'est parmi eux qu'il faut chercher, sans doute.
Et qu'avez-vous recueilli sur lui ? » Après avoir d'un magistral coup de tête aplati James Molley Scott contre la cloison de la cabine du corps irlandais, Basil Stockman, le maître d'équipage du trois-mâts, avait bondi sur la dunette du voilier et lestement avait sauté sur le quai d'une hauteur de 5 mètres.
Comme, ainsi qu'on le sait, il n'y a pas de la chance que pour la canaille.
Basil Stockman était retombé sur ses pieds, sans autre dommage qu'un léger essoufflement. Après 2 secondes d'immobilité pendant lesquelles il avait repris sa respiration, il s'apprêtait à se lancer dans la foule et à fuir lorsque 2 policemen lui mirent la main sur l'épaule. Il voulut tenter un effort pour se dégager et essaya de recommencer sur le policier le plus proche de lui le coup de tête qui lui avait si bien réussi avec James Marley Scott. Il en eut pas le temps. Un des 2 policiers lui appuya son revolver sur la tempe au même instant que l'autre lui passait au poignet une solide paire de menottes en fil d'acier.
« Suivez-nous sans résistance, sinon c'est une balle dans la tête !»
« Maître Ben Alwick, » fit l'un des policemen. À entendre ce nom, Basil Stockman tressaillit violemment.
« Mais je m'appelle Basil Stockman, » dit-il, « vous vous trompez. »«
c'est bon, vous vous expliquerez avec la tournée. Allez, venez. » Basil Stockman, ou plutôt Ben Alwick, grinça des dents. Il vit que le policeman au revolver le guettait et n'hésiterait pas à tirer. Il se soumit.
« C'est bon, je viens. Vous paierez ça cher, c'est moi qui vous le dis. D'abord, vous ne serez pas si... ne serez pas si fort. »
Sans répondre, les 2 policemen poussèrent leur prisonnier devant eux dans une direction parallèle au quai. Après avoir traversé la foule et parcouru une distance d'environ 200 mètres, ils arrivèrent devant un des nombreux escaliers de pierre creusés dans le quai et au pied duquel stationnait un élégant canot automobile. Lestement, les 2 policemen y entraînèrent Ben Howick.
« Mais où conduisez-vous ? »
grogna celui-ci.
« La paix ! Si tu veux que je ne te trompe pas ta chienne de carcasse, »
grommela le policeman au revolver. Ben Howick se le tint pour dit. Toujours entre les 2 gardes du corps, il atteignit la dernière marche de l'escalier contre laquelle l'eau noire clapotait. Soudain, saisi par 4 mains vigoureuses, il se sentit soulevé et projeté en avant, ni plus ni moins qu'un simple paquet. Il tomba au fond du canot automobile, et le choc fut si brusque qu'il poussa un grognement de douleur. Il voulut se lever, mais ses poignets étaient immobilisés par les menottes de fil d'acier, et dans l'ombre, un homme accroupi sur lui entravait ses chevilles. Ben Howick se résigna. Cependant, un individu enveloppé d'un ample manteau de caoutchouc et debout devant la roue du gouvernail du canot n'avait rien perdu de toute cette scène. « Nos hommes sont là-bas » demanda-t-il aux deux policemen. « Oui, chef, Renault est avec eux. Bon, tu lui diras de fouiller soigneusement ses prisonniers et de m'envoyer quelqu'un s'il découvre quoi que ce soit. Il y a juste 13 hommes, 13, qui se rappellent bien ce nombre. Il faut tous les 13, et qu'il surveille le capitaine, s'il y en a un. Oui, chef, va. Allez, larguez la bosse. Vous autres, allez, machine, doucement. » Les deux policemen s'éloignèrent dans la direction du Corizan, cependant que le canot automobile filait vers le large. « Bobby !» fit l'homme debout au gouvernail. Un marin s'approcha de lui aussitôt. « Prends la barre et dirige le canot vers ce gros navire charbonnier qui est là-bas. Nous y serons invisibles. » « Oui, chef !» répondit le marin en empoignant la minuscule roue de cuivre. L'homme au manteau de caoutchouc, en deux pas, arriva à l'arrière du canot, à l'endroit que les marins nomment la chambre, et qui est un creux garni circulairement de banquettes pour s'asseoir. C'est là qu'avait été jeté Ben Howick. L'homme au manteau se pencha sur le prisonnier, et tirant de sa poche une petite lampe électrique, il en fit jaillir un jet de lumière en disant « Tu me reconnais pas, Ben Howick? Je t'avais pourtant dit que nous nous retrouverions. » « John Robbins !» balbutia le prisonnier d'une voix rauque. « Mais vous n'êtes donc pas noyé ?»« Apparemment, mon gaillard. Mais tu dois comprendre que c'est pas pour te marrer mes aventures que je me suis ménagé cette petite entrevue avec toi. Allez, où sont les diamants ? » ?»« Mais je les ai pas. » »« Mais je m'en doute, mais tu me permettras de m'en assurer plus complètement. Ce sera d'ailleurs vite fait. » Et John Trobin, tirant un large Bowie knife de sa poche, eut au fait de lacérer les vêtements de son prisonnier. En moins de 10 secondes, Ben Howick n'eut plus sur lui que ses grosses bottes de toile, et John Robbins les lui enleva aussitôt. « Oh, j'ai froid !» fit le prisonnier en grelottant. « Mais Bill Regret, moi aussi j'avais froid l'autre jour, quand j'ai fait ce merveilleux plongeon. » John Robbins lentement examina avec soin les vêtements effilochés de Ben Howick. Il eut bientôt terminé et maugréa. « M'en doutais, oui, tu ne les as pas avec toi, mais où sont-ils ? J'ai froid. »« Et c'est ce qui t'empêche de parler, homme douillet. Attends. Hé, Johnson, apporte une couverture à ce gentleman. » Un marin accourut presque aussitôt avec l'objet demandé dans lequel John Robbins enroula Ben Howick. « Et maintenant, dit-il, me diras-tu où sont ces diamants ? « Je ne sais pas. Faudrait-tu par hasard te moquer de moi ? Cela m'est rarement arrivé, mon bonhomme. Écoute-moi bien. Tu as 1 minute pour te décider. Sinon, je t'enverrai avec une gueuse au cou méditer au fond du port sur la vanité des richesses de ce monde. Crois-moi, il vaut mieux vivre sans diamants que de mourir avec. » « Bloody hell, mais puisque je vous dis que je ne les ai pas, je ne sais même pas où ils sont, » grogna Ben Howick en proie à une sombre fureur. « Oh, je les ai assez cherchés. Arundel doit seul savoir ce qu'ils sont devenus. Sam Arundel ? Oui. Oh, tu mens, tu leur as fait parler et tuer. » Ben Howick fit entendre un rire sardonique. « Oh, sûr que je l'aurais fait. Malheureusement, il est devenu fou. Arundel est fou. Et comment? Et les diamants? Mais tu as dû fouiller le navire, tu as eu le temps. J'ai tout fouillé, depuis l'avant jusqu'à l'arrière, oui. J'ai fait déplier les voiles, désarriber tous les colis. Rien, rien, vous entendez? Vous êtes fan, John Swabbins, mais pas plus que moi, vous l'aurez les diamants. John Swabbins resta sans réponse. Benawick parlait avec un accent de dépit trop violent pour n'être pas sincère. Ainsi, fit le détective cambrioleur, tu n'as pas trouvé les diamants, mais es-tu sûr qu'aucun de tes hommes à toi, il y en avait 12 exactement, tu vois, je suis renseigné. Trop tard, hélas, ne sais point approprier le magot. Oh non, il n'en connaissait même point l'existence, fit Ben Howick. Bon, c'est bon, je te crois. Tu vois que je suis de bonne composition, et je t'annonce même que, malgré tes torts à mon égard, je te pardonne si tu as dit vrai. Il est encore temps de te rétracter si tu mens, car je vais te garder prisonnier, et si tu m'as trompé, je te tuerai sans pitié. Peu, à ton aise, ainsi tu m'as dit la vérité. Oui. John Swabbins s'éteignit sa lampe électrique. Il se dressa et courut à la roue du gouvernail. Tandis que durait son entretien avec Ben Howick, le canot, suivant ses instructions, avait été s'abriter entre deux gros navires à l'ombre desquels il était complètement invisible. John Swabbins prit la route du gouvernail. Puis, d'un coup de barre, il dirigea l'embarcation droit vers le Corisandre, qui était toujours collé au quai. Mais, arrivé à 200 mètres environ du trois-mâts, il vira légèrement sur la gauche, ce qui l'amena entre deux gros chalands pleins de charbon, où le canot fut complètement dissimulé. « Machine, stop !» commanda John Swabbins. Les moteurs s'arrêtèrent. Entraînée par son élan, l'embarcation alla doucement accoster un des chalands, le long duquel, suivant les ordres de John Swabbins, ses marins l'amarrèrent. Le détective cambrioleur, aussitôt le canot immobilisé, avait quitté le gouvernail. Il gagna la petite cabine située à l'avant de l'embarcation, et après quelques instants, en ressortit revêtu d'un équipement complet de scaphandrier. Préparez l'échelle, commanda-t-il au marin du canot, qui, immobile, attendait ses ordres. Ils obéirent, et presque aussitôt, une légère échelle de bois fixée au flanc de l'embarcation s'enfonça dans les flots noirs. Vous resterez ici jusqu'à mon retour, fit Swabbins. Dans une heure au plus tard, je serai là. Oui, chef, répondirent quatre voix. Ayant assujetti à sa ceinture une boîte de cuivre cylindrique remplie d'outils, John Swabbins empoigna l'échelle et lentement descendit. Il eut bientôt disparu dans l'eau. Grâce au réservoir d'air comprimé qu'il emportait avec lui, aucun tuyau ne le reliait au canot. Il était donc libre de ses mouvements. Il atteignit le fond et lentement marcha vers l'endroit où se trouvait le Corisandre, dont la quille se trouvait à environ un mètre plus haut que le fond du port. John Swabbins, quand il eut touché la coque du trois-mâts, tira de sa boîte de cuivre une cartouche de dynamite et n'eut aucune peine à l'accrocher au manteau de coquillages de toutes sortes incrustés dans la coque du Corisandre. La cartouche fixée, le détective cambrioleur mit en action le minuscule mécanisme d'horlogerie devant la faire éclater 2 minutes plus tard. Puis à pas rapide, il s'éloigna dans la direction de son canot. Il pensait « Oh, si les diamants sont encore à bord,
ils sont jamais si bien gardés que par la mer. En attendant que je vienne les prendre. » 10 minutes plus tard, John Chobbins, ayant ouvert un robinet fixé à sa ceinture et qui faisait communiquer le réservoir d'air comprimé qu'il portait sur son dos avec l'intérieur de son vêtement de caoutchouc, montait comme un ballon à la surface. En quelques brasses, il atteignait l'échelle fixée au flanc du canot automobile et remontait à bord. Au même instant, une rumeur retentissait sur le corysandre. Sous l'eau, la cartouche de dynamite avait éclaté et crevé la coque du trois-mâts qui sombrait lentement. John Chobin s'en aperçut à travers le hublot de son casque de cuivre et sourit de satisfaction. Cependant, les marins du canot le débarrassaient activement de son costume de scaphandrier. Bientôt, il eut quitté l'enveloppe de caoutchouc et demanda « Rien de nouveau ?»« Rien, chef. All right. Détachez le canot. Nous rentrons en ville. » Les marins obéirent. John Chobin s'étant remis au gouvernail, dirigea le canot vers le quai, où il accosta 5 mètres derrière le corysandre qui achevait de sombrer. Le détective cambrioleur sauta immédiatement à terre et dit « Vous conduirez le prisonnier à Cliff House. Surveillez-le bien. S'il tente de s'évader, donnez-lui un narcotique qu'il fera tenir tranquille. Je viendrai demain matin. » D'un geste désinvolte, John Chobin se revêtit de son ample manteau de caoutchouc et à grands pas se perdit dans le dédale des rues avoisinant le quai. Son but n'avait rien de mystérieux. C'était un grand bar ruisselant de lumière au-dessus de la porte duquel se lisait en lettres d'or « Moon's Hall Bar ».